J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que ça en coule, mais maintenant c'est fini.
Au lendemain des émeutes, et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche, et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent, et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Et voilà, 18h passées de... 19h passées, c'est de quelques secondes.
Ça va bien se passer ce Canu Info, bonsoir ouais. À tous et à toutes.
Donc vous êtes à l'écoute de Radio Canu, la plus rebelle des radios, pour ce Canu Info du jeudi. L'équipe, c'est bien sûr Delphine.
Oui, bonsoir. Bonsoir Laurent. Bonsoir à tous
et Laurent, donc pour une heure d'information, on va parler de différents sujets, notamment on parlera un petit peu du Japon et de la Corée du Sud, des USA et du problème du génocide arménien. Nous parlerons pas mal aussi, enfin un petit peu de religion, nous parlerons des fachos, nous parlerons pas mal de médias aussi, notamment peut-être de la bande FM qui va disparaître, vous allez tout savoir, est-ce que c'est ici, est-ce que c'est ailleurs, voilà, et puis du patronat comme d'habitude, du capitalisme comme d'habitude, des OGM, et on terminera par une page, pour pas dire une tranche nucléaire, comme il se doit, le nucléaire va toujours pas par tranche.
Une bonne cuvée, hein, ouais, nucléaire en ce moment. Alors oui, effectivement, nous allons commencer par parler de la Corée du Sud et du Japon. Vous savez que les deux pays ont quelques difficultés dans leur diplomatie, en particulier en ce qui concerne un sujet sensible, le fait que le Japon refuse de présenter des excuses pour l'esclavage sexuel durant la Seconde Guerre mondiale, subi par plus de 200 000 femmes, pour la plupart des Coréennes, c'est ce qu'on appelle... les femmes de réconfort.
C'était des bordels de femmes esclaves coréennes pour l'armée japonaise.
Et enfermées, séquestrées et violées par les militaires japonais. Alors, nouvelle affaire pour améliorer les relations diplomatiques. C'est le Premier ministre Shinzo Abe qui tente d'inscrire 23 sites qu'il estime symboliser la révolution industrielle de l'ère Meiji. Alors, c'est des mines de charbon et des chantiers navals. Il souhaite les inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, sur la liste éducation, sciences et culture. Alors, le petit problème pour la Corée du Sud, c'est que des travailleurs coréens ont été forcés de travailler dans ces mines de charbon, sur ces chantiers navals, pendant la période impérialiste japonaise. Alors, évidemment, la Corée du Sud prend mal, hein, cette demande japonaise. Alors, il faut savoir que pour l'instant, C'est le Conseil international des monuments et des sites qui passe en revue les candidatures. Ce conseil va prendre une décision, c'est une recommandation si vous voulez. Donc cette recommandation va être rendue mi-mai et ensuite le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO se réunira du 28 juin au 8 juillet prochain pour donc faire savoir quels dossiers ont été retenus. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est une autre défense avancée au Japon, c'est de faire des quelques comparaisons avec d'autres inscriptions et classements. Alors, par exemple, on a pu entendre parler d'Auschwitz en disant, bah, vous voyez, c'est devenu un lieu patrimoine aussi. Alors, à Séoul, on n'est pas tout à fait d'accord avec cette idée. On rappelle que ça a permet aujourd'hui un rappel historique important sur un événement tragique de l'histoire, mais c'est pas du tout ce que le Japon veut faire. On est, je vous le rappelle, sous un gouvernement
réactionnaire très à droite.
J'allais dire fascisant, mais
voilà.
C'est l'extrême droite. Donc voilà, c'est une nouvelle guerre qui est très importante, qui est donc qui se reporte sur l'UNESCO. En Corée du Sud, il y a un groupe de travail qui a été monté. Il y a un nouveau diplomate qui a été envoyé ambassadeur à l'UNESCO. Donc voilà, il y a beaucoup de mouvements pour contrer cette demande japonaise et pour empêcher Monsieur Abe de continuer toujours un peu à remanier l'histoire.
Ah ben on va parler de remaniement et de l'histoire tout de suite avec la suite du génocide arménien. La semaine dernière on a fait une grosse partie dessus, on a rappelé un petit peu ce qui s'était passé. Vous savez que demain on sera le 24 avril 2015 et c'est la date qui a été choisie pour fêter le centième, enfin fêter, commémorer, on dit quand c'est pas joyeux, commémorer le centième anniversaire du génocide des Arméniens par les Ottomans et les Turcs. Il y a pas mal de festivités, hein. Il y a un gros truc qui a lieu à Erevan, je crois. C'est plutôt samedi, on sera le 25. Mais je vais revenir sur ce qu'a dit aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, il y a deux jours, hein, c'était mardi, le 21 avril, Barack Obama à la Maison Blanche autour du génocide. Il a dit, et je vais le citer, il a appelé à une reconnaissance pleine, franche et juste des faits concernant le massacre d'Arméniens pendant la Première Guerre mondiale, tout en évitant, bien évidemment, d'utiliser le mot génocide. Alors, limiter le massacre des Arméniens à la période de la Première Guerre mondiale, comme je l'ai réexpliqué la semaine dernière, c'est être révisionniste parce que le massacre des Arméniens commençait bien avant, hein, c'est à la fin du 19e que ça a vraiment commencé à prendre de l'ampleur. Et le début du 20e n'a été que la concrétisation de l'idée de détruire l'intégralité des Arméniens par les différents systèmes politiques issus de l'Empire ottoman, qu'a donné la Turquie moderne, hein, avec la naissance de l'État turc à peu près dans ces années-là, hein, au milieu de la Première Guerre mondiale. Alors, bien évidemment, Barack Obama, il rappelle l'importance d'honorer les 1,5 million d'Arméniens. C'est le chiffre donné par les Arméniens qui est contesté par les révisionnistes et qui est un chiffre qui n'a pas grande valeur, si ce n'est que pour rappeler que c'est un nombre énorme de personnes qui a disparu, parce que qu'il y en ait 1,4 million ou 1,6, finalement, le chiffre, il est énorme quoi qu'il arrive. Hein. Donc, c'est pas le nombre d'Arméniens qui compte. Finalement, ils en auraient tué que 100 000, c'était aussi... Parce qu'il y en aurait eu que 100 000, c'était la même portée, sauf qu'il y avait presque 2 millions d'Arméniens, ils ont essayé de les tuer tous. Hein. Faut quand même avoir ça en tête. C'est pour ça que d'ailleurs, ça s'appelle génocide. On notera quand même le courage, hein, de Barack Obama, qui tout le long de ses deux mandats a été un président sans aucun courage. On sait qu'il a des idées politiques plutôt placées à gauche pour les États-Unis d'Amérique. Et à chaque fois qu'on attendait qu'il s'exprime, hein, sur les assassinats de Noirs par les policiers, il y est allé tout doucement aussi. Là, sur le génocide arménien, c'est pareil. Tout ça parce qu'il est ami, qu'il a besoin de l'alliance avec la Turquie moderne. Et c'est quand même triste, hein, de voir la réole politique travailler au révisionnisme historique, alors que ça coûterait pas grand chose, parce que la Turquie peut pas partir non plus, ne peut pas arrêter du jour au lendemain d'être ami des États-Unis d'Amérique, d'utiliser le mot génocide. Et d'ailleurs, ce que je trouve encore plus loin, où Barack Obama va encore plus loin, finalement, dans le quasi-mépris de ce qui s'est passé il y a un peu plus d'un siècle, ou il y a un siècle, c'est que dans les commémorations qui ont lieu à Erevan, donc après-demain, le 25 avril, il y va pas. C'est quand même, enfin, des commémorations de génocide, il n'y en a quand même pas tous les jours. Et ben, alors qu'il y a pas mal d'Arméniens aux États-Unis d'Amérique, hein, on a vu System of a Down, le groupe de métal, venir à Lyon. Ils sont issus, ils sont californiens, hein, et pourtant ils sont d'origine arménienne. Et ben, il envoie simplement son secrétaire au Trésor, Jacques Liu. Voilà, c'est encore, moi je trouve, un peu plus de mépris pour les Arméniens, surtout que le pays a quand même besoin un peu de soutien aussi, parce que si vous êtes déjà allé en Arménie, vous savez que c'est un pays qui est pas très riche. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. On retourne en Corée du Sud ?
Oui, alors on va parler des suites de l'affaire du ferry du Sewol, hein, on vous a raconté. Un accident, 304 personnes, pour la plupart des lycéens. Les familles ne cessent de manifester en Corée du Sud pour connaître la vérité. L'enquête a traîné. On est à peu près sûr que le capitaine et l'équipage, ils vont trinquer. Mais les familles en demandent plus, déjà. Ils demandaient à ce que le
à la peine Sewol... de mort, non, c'est pas ça.
Ouais, alors il y en avait qui demandaient la peine de mort. Mais sinon, ils aimeraient bien que le Sewol soit remonté, que l'État s'engage et paye les frais, puisque tous les corps n'ont pas été retrouvés. Ils aimeraient que l'enquête progresse et qu'il n'y ait pas simplement l'équipage et le capitaine qui soient poursuivis. Donc, ils continuent à manifester. Là, jeudi dernier, se déroulait une manifestation silencieuse organisée en hommage aux victimes. C'était la commémoration, l'anniversaire. Donc, les familles étaient là et ça ne s'est pas bien passé à Séoul. C'est chouette, hein, la Corée du Sud, quand même, au niveau des manifestations et de la répression.
Oui. La police peut être très violente.
Très violente. Donc, alors, il y a eu des affrontements. 10 personnes ont été arrêtées et puis ils ont décidé d'encercler les manifestants. Je rappelle que c'est pas des syndicalistes. Hein, c'est alors, il y en a peut-être, hein, qui sont des syndicalistes, mais en tout cas, ils sont là en tant que famille, proches, parents. Ils avaient sorti 400 policiers qui ont encerclé moins d'une centaine de personnes. Jusque vendredi matin à l'aube. Donc ça, c'était en fin de semaine dernière. Il faut savoir, donc, les familles font des sittings au centre de la capitale. Et parallèlement à ça, la police a empêché des proches de rejoindre les manifestants, comme ça se fait chez nous. Hein, ouais. Ils ont bloqué, ils ont tenté de bloquer aussi les marches. Et puis, ça a été jusqu'à samedi, où ils ont sorti encore une fois les gaz et puis les canons à eau, hein, parce que ça fait pas de mal de les sortir de temps en temps. Et donc ils ont chassé à coups de canon à eau les familles qui tentaient de défiler pour rejoindre la résidence de la présidente. Voilà, tout ça est très démocratique, bien évidemment. On se demande quand même pourquoi il y a une telle résistance pour mener cette enquête. Il faut savoir que Madame la présidente a été à la cérémonie d'hommage, donc jeudi dernier, elle s'est fait un peu envoyer bouler, hein, puisqu'ils ont dû, elle et ses amis, les évacuer sous les insultes et sous la protection de la police. Donc voilà, ça se passe pas bien. On se demande pourquoi il y a cette résistance. Alors il faut dire qu'en ce moment aussi, en Corée du Sud, ça brasse. Je vous rappelle que c'est un pays où la corruption a était très forte et elle l'est toujours très forte. C'est le premier ministre qui a proposé sa démission. C'était mardi. Pourquoi? Parce qu'il est accusé de corruption. Alors tout ça, ça a débuté suite au suicide d'un patron d'une entreprise de BTP qui s'est pendu. Et il avait sur lui une petite liste de noms avec des noms et en face des montants. Et sur cette liste figurait le premier ministre de la Corée du Sud. Donc ça la fout mal. Tout ça, il y en a d'autres, hein, qui vont être concernés. Et c'est pas les premiers, ça sera pas les derniers a priori. Donc voilà, les liens entre entreprises et politiques sont toujours très très forts en Corée du Sud. Et certains et certaines commencent à vraiment se demander si c'est pas aussi pour cette raison qu'il y a une telle résistance pour mener une enquête digne de ce nom suite à l'accident du Sewol.
Alors on parlait un petit peu de religion et du pape François qui s'exprime sur tout et un peu n'importe quoi en ce moment. Hein, on l'a entendu sur les réfugiés qui viennent d'Afrique, alors que le Vatican n'accueille pas de réfugiés. Hein. Bizarrement, ils donnent des leçons aux autres, mais eux, ils ont quand même de la place, ils pourraient en loger, hein, dans leurs grandes églises, leurs grandes bâtisses au Vatican. Non, non, il faut que ce soit l'Europe. Certes, l'Europe devrait accueillir ses réfugiés, mais le Vatican, au lieu de donner des leçons, pourrait le faire. Et il continue de donner des leçons. C'est lundi où ça m'a un petit peu énervé, puisqu'il y avait la conférence des rabbins européens. Je vais me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc, la conférence des rabbins, le Vatican? Oui, c'est la première fois que le Vatican accueillait cette conférence des rabbins européens. On sait que le pape a fait œuvre d'ouverture, hein, même si on sent très bien que c'est plus de l'apparence que de la réalité, mais en tout cas il le fait. Et notamment sur les autres religions, pour des raisons qu'on va comprendre dans les propos qu'il a tenus par la suite. Donc il a expliqué qu'il avait une relation d'amitié étroite avec le judaïsme. Il s'est entretenu d'ailleurs en entretien particulier avec le grand rabbin de France. Alors ils ont plein de sujets communs, faut le savoir. Le grand rabbin de France s'est opposé, il est homophobe, le grand rabbin de France, donc il s'est opposé au mariage pour tous, bien évidemment. Il est contre l'égalité entre les hétéros et les homos, égalité sur, donc sur le mariage, mais sur l'adoption, la vie, enfin tout ce qui peut concerner deux êtres humains. Donc forcément, le pape François étant sur cette longueur d'onde, ils avaient sûrement plein de choses à se dire. Donc ils ont aussi parlé des problèmes d'antisémitisme et avec les tentatives d'attentats déjoués contre des églises. Ils ont pu parler aussi des attaques religieuses en général, et c'est là où il a pu dire, et je le cite, « Dans une société marquée de plus en plus par la sécularisation et menacée par l'athéisme, nous courons le risque de vivre comme si Dieu n'existait pas. » Alors pour lui, la société, elle est menacée par l'athéisme. C'est intéressant d'entendre ça. Il est athéophobe, hein, puisque maintenant il paraît que quand on attaque un catho, on est cathophobe, un chrétien, on est christianophobe, une représentation de l'islam, on est islamophobe, etc. Donc lui, il est athéophobe, comme beaucoup d'ailleurs finalement. Hein, alors l'athéophobie part de l'extrême gauche à l'extrême droite. Hein, du coup, là, c'est partagé. Mais il mélange quand même un petit peu tout, ce pape. Mais en tout cas, effectivement, il a des points communs avec ses amis juifs, puisque eux aussi, ils partagent la même idée qu'il faut surtout pas rentrer dans une sécularisation, c'est-à-dire une mise au ban de la religion qui ne serait qu'un rapport personnel aux êtres humains et qui n'interviendrait beaucoup moins dans la vie de la société. D'ailleurs, il a réexpliqué que pour lui, la laïcité, par exemple, en France, c'était pas un problème. Ce qui posait problème, c'est l'athéisme. Donc, il a bien fait comprendre que son ennemi aujourd'hui, c'est l'athéisme, ce sont tous les athées, ce qu'il appelle la négation de la religion. Et voilà, ça nous fait plaisir de savoir ça, parce que comme c'était pas notre ami, c'est devenu notre ennemi d'un coup. Alors il a pu échanger notamment avec ce fameux rabbin français, là, Moshe Levin, sur tout ça. Alors Moshe Levin s'est exprimé aussi, je vais citer la belle phrase qu'il a dit, face à cette tendance laïcarde croissante et une volonté de sécularisation, nous devons faire valoir l'apport des religions aux questions de société, comme récemment sur la fin de vie. Ben oui, ça nous rappelle que dans les projets de loi sur la fin de vie, la France est particulièrement en retard à cause de l'influence religieuse. Hein, il y a des pays où l'influence religieuse se fait moins sentir au niveau des lois. En France, c'est pas le cas. Donc la loi qui est sortie est une loi qui n'avance pas beaucoup à cause de l'influence religieuse. Donc Moshe Levin, avec son ami le pape François, se félicite d'avoir limité finalement la progression et l'avancée, la modernisation de la fin de vie telle que c'était qu'on aurait pu l'imaginer dans un projet de loi. Donc voilà, bon, ils sont d'accord pour dire qu'il faut être gentil avec toutes les religions. C'était un peu chez les bisounours quand on les entend parler, sauf quand ils parlent de l'athéisme où là ils ont une très très grosse agressivité, on peut le dire. Alors bien évidemment, ils ont officiellement pas parlé de l'homophobie, puisqu'ils le sont ouvertement. Et la dernière preuve en date qui est ressortie dans le Canard enchaîné, vous savez, c'est cette brouille diplomatique là entre la France et le Vatican au sujet de l'ambassadeur français au Vatican. Donc normalement, le poste était prévu, c'était Laurent Stefanini, qui a déjà bossé pas mal là-bas, qui était à l'ambassade à Rome, et le pape refuse. Et alors, on a appris par le texte du Canard enchaîné que c'est pas une décision prise collectivement, c'est le pape François qui s'est opposé catégoriquement à que Laurent Stefanini devienne l'ambassadeur de la France auprès du Vatican, pour la simple et bonne raison qu'il est homosexuel. Donc là, si vous aviez des doutes, si vous pensiez que ce pape était progressiste, c'est rappeler qu'aucun religieux ne peut être progressiste réellement, hein, parce qu'ils sont trop près de leur texte religieux. Donc voilà, alors il y a des magouilles hein, à l'heure d'aujourd'hui pour régler cette question de l'ambassadeur de France au Vatican. Il y a eu un entretien personnel hein, entre le pape et ce fameux Laurent Stefanini. Mais suite à cet entretien, le pape est resté sur ses dispositions. Officiellement, l'État français dit qu'ils essaient de négocier, mais dans les faits, en fait, ils cherchent un remplaçant pour plier devant un État religieux. Ce que la France aime bien faire hein, ces derniers temps, de plier devant les États religieux. Ça sera, on va vite le savoir dans quelques semaines, si Laurent Stefanini est maintenu contre vent et marée, ça veut dire que l'État assume le droit aux homosexuels d'être ambassadeur et de représenter la France. Sinon, on aura compris que l'État reste homophobe aussi, en tout cas est prêt à accepter les rejets homophobes de la part de certains États comme le Vatican.
Alors, on va parler de médias. Hier, un communiqué a confirmé que des négociations sont en cours entre le propriétaire actuel, le groupe pharmaceutique Pierre Fabre, et la société Prime Invest Media pour une cession effectif d'ici fin juin, nous dit-on, du groupe Valmonde, qui comprend les titres Valeurs Actuelles et deux magnifiques trimestriels, Jour de Sals et Jour de Cheval. J'en bafouille, voyez-vous.
Ouais, c'est surtout Valeurs Actuelles, le fer de lance. Hein, c'est le journal avec les idées d'extrême droite qui a le plus d'audience aujourd'hui.
Ouais, alors de toute façon, dans la presse écrite, c'est un exemple. C'est-à-dire que Valeurs Actuelles a vu ses ventes croître ces dernières années. Le titre est rentable, ce qui n'est pas si simple,
le cas ouais, de beaucoup. Ouais.
Ils ont des ventes en augmentation depuis en plus que la gauche socialiste est aux commandes. Donc oui, c'est un titre qui se porte très très bien. Alors c'est un rapprochement qui serait à l'initiative de monsieur Jean-Claude Dacier, qui doit vous dire quelque chose. C'est un ancien cadre dirigeant de TF1 et actuel administrateur de Valeurs Actuelles. Alors il faut savoir que jusqu'à son décès en 2013, monsieur Fabre était à titre personnel le propriétaire de Valeurs Actuelles. Il avait racheté le titre en 2006 à Serge Dassault. Hein, vous voyez un peu le genre.
Un autre grade de droite.
Alors, depuis sa mort, le groupe cherchait un repreneur, hein, cherchait un petit peu à s'en débarrasser. Alors, qui nous trouvons derrière Prime Invest Media? Alors, on trouve d'abord le financeur, c'est un homme d'affaires, monsieur Safa, c'est un investisseur qui est présent dans les chantiers navals. Il possède les constructions mécaniques de Normandie, le transport maritime, l'immobilier, le pétrole, le gaz. Donc voilà, avec son groupe Prime Invest, il est bien présent. Et donc, dans le cadre de sa diversification, il a donc créé tout exprès Prime Invest, présidé par monsieur Moujotte.
Ah, Étienne.
Étienne, dont nous allons parler à l'instant. Et donc, il a créé vraiment hein, pour pouvoir permettre l'acquisition de ses titres du groupe Valmonde. Alors, je vous le disais, vient après le financeur, le professionnel, monsieur Moujotte, hein, actuel directeur de Radio Classique, c'est le groupe Les Échos. Ex-patron du Figaro et ancien vice-président de TF1.
Bah, c'était lui le temps de cerveau disponible.
Alors, c'est la même époque. C'est toute cette époque magnifique. Alors, pour lui, en Valeurs Actuelles, c'est un magazine de droite de référence. Et puis, la dernière personne dans l'affaire, c'est l'ami, à la fois ami de M. Safa et l'ami de M. Moujotte, Charles Villeneuve, lui-même, hein, ancien cadre lui-même de TF1, ex-président du PSG. Et il est aussi l'ami de M. Safa, puisqu'ils sont résidents du même bled. Dans les Alpes-Maritimes, oui, c'est vrai. Oui, ben ça rapproche hein, le voisinage. Alors, il faut savoir que le trio avait tenté de racheter le groupe Nice Matin en automne dernier, ça n'a pas marché. Bon, il faut savoir à côté de ça, en plus, que M. Moujotte connaît bien le directeur de Valeurs Actuelles, M. De Cardrel, qui est à la tête du titre depuis 2013, puisqu'ils se sont côtoyés tous les deux au Figaro, hein, donc entre amis, on reste entre amis. Surtout que M. De Cardrel a déjà l'assurance de conserver sa place, si jamais donc, la vente se fait. Alors, on rappellera que depuis la prise des commandes de M. Cardrel, le journal n'a cessé de multiplier les différentes attaques sur l'islam, l'immigration, les Roms. On rappellera que ça les a amenés deux fois en justice. Il y avait eu en février, pour provocation à la discrimination envers les musulmans, pour une couverture présentant la Marianne voilée. En mars, pour provocation à la discrimination, la haine ou la violence envers les Roms, et diffamation pour un dossier intitulé « Roms, l'overdose ». À l'heure actuelle, hein, fait appel, hein, des condamnations. Ce qui est intéressant, c'est que le titre intéressait d'autres gens qui sont aussi à l'extrême droite.
Oui, bah forcément.
Voilà. Alors, la question que se posent certains et certaines dans la presse écrite, c'est de savoir quel lien tout ça va avoir avec la politique. On rappellera que certaines écoutes de M. Buisson nous ont révélé que M. Sarkozy et M. Moujotte étaient assez proches quand celui-ci était au Figaro.
Et puis, Valeurs Actuelles est très très adorateur de Nicolas Sarkozy quand même.
Ouais. Donc la question est de savoir si nous allons revivre une belle histoire d'amour maintenant.
Ça sent bien venir comme ça. Quand même.
Voilà, mais c'est très très intéressant, donc on va suivre, hein, et on va voir si jamais effectivement tout ça se fait.
Alors, on va rester dans l'information et dans la désinformation, puisque le FN, le parti soi-disant différent des autres, mais quand on regarde finalement dans les fonctionnements, il est comme les autres, sauf qu'il y a un domaine dans lequel il est différent, c'est dans l'insulte, où il est beaucoup plus fort que n'importe quel homme politique. Et on va parler de Bruno Le Maire. Alors attention, ce n'est pas Bruno Le Maire, plus loin, qui est très connu, hein, qui est à l'UMP, hein, qui est toujours proche de Nicolas Sarkozy. Non, c'est pas lui. Il y a un autre Bruno Le Maire dans le monde politique, qui est conseiller municipal FN de Perpignan, qui est conseiller économique de Marine Le Pen, et qui est secrétaire général du fameux think tank du Front National qui s'appelle le Club Idées Nation. Oui, vous faites le salut en même temps, sinon ça marche pas. Bon, bref, ce militant politique élu d'extrême droite a fait lundi un petit tweet. Ah, c'est beau les tweets. Donc, il a retweeté, en fait, c'est la réponse à un tweet qu'il avait reçu qui disait « Valls a clairement l'objectif de l'extermination ethnique des chrétiens ». Lui, il répond à ce tweet, qu'il envoie à tout le monde, « Valls, je ne sais pas. Cazeneuve, Hollande et Taubira, sûrement, et Valls ne fera pas grand-chose pour s'y opposer. » Alors, il a été ensuite interpellé sur Twitter par un autre militant du FN, et il a maintenu ses propos. Alors, c'est intéressant de voir ça, parce que, et d'entendre ça, ou de lire, parce que on peut reprocher énormément de choses à Valls, Cazeneuve, Hollande, Taubira et tous les hommes politiques que vous voulez, mais dire que Valls, Cazeneuve, Hollande et Taubira veulent tuer, exterminer, ça veut dire tuer, hein, tu veux tuer les chrétiens, ça me paraît difficilement envisageable. Je vais pas défendre Valls, Cazeneuve et Hollande, mais enfin quand même, je pense que c'est un vrai mensonge de dire ça, c'est une vraie attaque, c'est fait exprès. On sait que Madame Taubira, elle subit beaucoup les attaques de l'extrême droite, hein, parce que, bah ouais, c'est une femme et en plus, elle est pas très blanche, donc elle a l'habitude. J'espère qu'elle commence à avoir l'habitude et qu'elle est pas malheureuse à chaque fois qu'elle se prend une insulte, parce que sinon la pauvre, elle a une vie pourrie. Mais en tout cas, le Front National a décidé d'insulter tout le monde avec ce genre de désinformation, et ça donne une image de ce que pourra être un jour, ce que sont déjà d'ailleurs les villes où le Front National est élu, où on a des tissus de mensonges qui sont véhiculés à travers les propos qui sont tenus dans les conseils municipaux, sur Internet ou autres. Donc voilà, alors que Valls, Cazeneuve, Hollande et toute la bande du PS au pouvoir est très très critiquable sur plein de domaines, mais les accuser de vouloir exterminer tous les chrétiens, ça paraît pas crédible, hein. Et à la rigueur, moi j'espérais tellement qu'ils soient anti-religieux, et c'est même pas le cas. Malheureusement, ils sont pas du tout anti-religieux, et en plus les anti-religieux ne veulent pas tuer les croyants mais les religions. Donc voilà, c'est un propos, un beau mensonge de ce Le Maire, qui est pas celui de l'UMP mais qui est bien celui du FN. Pas de condamnation, hein, de la part du FN, qui ni de la Marine ni des autres, ce qui veut dire qu'ils l'ont pas exclu, etc. Donc les propos sont assumés par l'ensemble du parti.
Ah, on va parler de toute autre chose maintenant, on va parler de FM, on va partir...
Oui, c'est FN-FM.
Ouais, pas rien à voir, attention. Hein.
Donc la bande FM, tu veux dire?
Oui, tout à fait, la radio, comme nous.
Voilà. Alors, FM, c'est-à-dire modulation de fréquence.
Voilà. Alors, vous savez que un peu partout dans le monde se pose la question des radios numériques. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va basculer? Pas basculer? Voilà. Eh ben, il y a un pays où ça y est, on sait comment ça va se passer. Ça sera en 2017 et ça sera en Norvège. C'est fini.
La bande FM est finie. Ouais. Elle est fermée.
Fermée définitivement. Alors, Il faut déjà reposer un peu le contexte, ça n'a pas grand-chose à voir le paysage radiophonique en Norvège. Il faut savoir que la moitié des foyers norvégiens ont un poste compatible, donc déjà il y a un équipement qui est en place. Reste que ce sera quand même le premier pays à faire le grand saut. Mais il y avait aussi très peu de radios qui avaient la possibilité d'émettre au niveau national, il y en avait 5. Donc c'est un paysage très différent. Et là, il y a déjà beaucoup de radios qui sont diffusées par voie numérique. Il y en a 22. Donc il y a, ça n'a rien à voir avec nous. C'est-à-dire que ça s'est fait autrement.
Le pays n'est pas du tout occupé de la même manière. Les distances sont grandes. La FM n'est pas implantée pareil. Ce qui fait, voilà, il y a plein de raisons qui expliquent qu'effectivement, supprimer la FM en Finlande...
En Norvège,
ça n'aura pas forcément le même impact que si on la supprimait en France, par exemple, un pays très attaché à la bande FM.
Ouais, mais il y a plusieurs pays comme ça dans le monde où il y a une pratique de la bande FM qui ferait qu'il y aurait beaucoup de difficultés. Alors, il y a évidemment des arguments aussi massus, moi je trouve, qu'ils seraient amenés par le ministère de la Culture norvégien, que ça va permettre aux auditeurs d'avoir accès à des programmes plus divers et plus réalistes et profiter d'un meilleur son. Ça, c'est aussi des arguments qu'on retrouve chez nous.
Ouais, alors le meilleur son, on sait que c'est pas vrai, hein. Le numérique n'apporte pas un meilleur son. Par contre, pluraliste, oui, ils vont y gagner, puisqu'effectivement, il y avait très peu de chaînes FM diffusées partout. Le fait de les supprimer et de généraliser une autre diffusion qui sera une numérique, mais pas hertzien, c'est là ce qui est différent avec les projets européens, anglais, allemands et autres, c'est qu'ils vont faire passer essentiellement ça par Internet, et là, ils auront accès effectivement à plus de chaînes.
L'autre argument du ministère, c'est qu'en fait, la diffusion FM coûte beaucoup plus cher aux radios que la diffusion numérique. Alors, c'est bien sur ce point-là qu'en France, ça freine. Hein.
Ah oui, c'est pas du tout le cas.
Tout le monde boude, hein, beaucoup de les grands groupes, et puis beaucoup de radios associatives boudent le projet. Certaines, on ne sautait pas, hein, y vont. Mais c'est parce qu'ici, ça risque de coûter beaucoup plus cher. C'est l'inverse. Donc, c'est un argument qui, ici, ne va pas du tout. Le CSA continue, malgré tout, d'avancer. Le CSA va lancer de nouveaux appels à candidature à Lille et à Strasbourg. Bon, les tests continuent, mais pour l'instant, tant que et Radio France et les grands groupes n'ont pas décidé de se lancer, pour l'instant, ça reste un peu bloqué. Et puis quand même, il faudrait rappeler qu'il y a beaucoup de radios associatives et qu'elles font un poids extrêmement important quand même aussi dans ce genre de décision, l'air de rien. C'est une vraie force aussi en France.
Enfin, jusqu'à maintenant, dans le développement du numérique hertzien en France, on remplace la bande FM par des ondes, mais qui sont porteurs d'un signal numérique. Il y a des régions, Lyon était une région pilote, hein. On sait qu'il y a des radios FM, comme Sol FM par exemple, qui a demandé à passer au numérique. Comme il n'y a pas de budget, de toute façon, ils n'auront jamais l'argent, mais en fait, l'idée en France est portée par les radios d'État, qui elles veulent de la radio numérique. C'est d'essayer de faire basculer donc l'essentiel des auditeurs du côté numérique. Ça a été fait en Angleterre par exemple, il y a les deux systèmes qui coexistent, hein, la FM et le monde numérique. Le monde numérique a à peu près 20%, hein, sur ces 10 dernières années, ils ont gagné que 20%. La FM a encore presque 80%. Donc c'est pas gagné non plus, c'est compliqué à mettre en œuvre. Alors en qualité on gagne pas, ça ils peuvent raconter toute la propagande qu'on veut. L'AFM a un très très bon son, il n'y a pas besoin de beaucoup plus de qualité. On va y perdre en plus en FM quand la réception est mauvaise, ça crachote. En numérique, quand la réception est mauvaise, on capte plus rien. On a des bruits numériques et c'est plus audible. Donc si vous êtes dans une zone de réception très bonne, ça sera l'équivalent. Par contre, quand vous êtes comme à la Croix-Rousse, où il y a plein de zones d'ombre, parce qu'ils sont incapables de diffuser les ondes correctement à cause des immeubles, etc., et ben là, si ça passe en numérique, beaucoup moins de gens auront accès à la radio de manière hertzienne. Bien sûr, il y aura la possibilité de passer sur Internet. Et dire que ça coûte moins cher sur Internet, c'est un vrai mensonge. Un exemple simple... L'émission d'une radio FM très écoutée, par exemple Radio France, France Inter à Lyon, ça nécessite un émetteur. Le même émetteur d'ailleurs que pour Radio Canu, qui est juste un petit peu plus puissant. Quel que soit le nombre d'émetteurs, le nombre d'auditeurs, ça coûte la même chose. Sur Internet, s'il y avait la même quantité d'auditeurs de France Inter sur Internet, il faudrait des serveurs énormes, des tuyaux, enfin pas les serveurs, mais des tuyaux énormes qui arrivent au serveur. Et là, ça coûterait beaucoup plus cher. Pour l'instant, c'est pas possible de faire le même prix, de concurrencer un seul émetteur avec une radio. Alors, ça marche encore plus pour les radios uniques, comme les radios associatives qui n'émettent qu'à un seul endroit. Là, la concurrence avec Internet, l'hertzien coûtera toujours moins cher.
Alors, il faut savoir quand même qu'il y a le développement des sites web pour les radios, et que ce développement-là du streaming, il est aussi très important. C'est-à-dire qu'ils ont mis pour beaucoup de groupes beaucoup d'argent dans ce développement-là. Ils ont créé des sites, il y a des missions, des postes, tout ça qui ont été créés. Il y a de la technologie qui est développée. Ils n'ont pas trop envie de trouver d'autres systèmes que ça. Économiquement, ça marche bien. Il y a beaucoup d'auditeurs aussi qui passent directement comme ça. Donc, très franchement, on sent qu'il y a plutôt une envie de rester comme ça. Pas trop bouger, pas trop se développer autrement et de commencer à aller encore vers des nouveaux projets. Là, il y a l'idée de pouvoir proposer du streaming, mais surtout de rester sur des techniques habituelles pour que les auditeurs puissent écouter tranquillement leur radio sans être obligés de changer de matériel. Voilà, donc en tout cas, la Norvège a décidé de passer le cap. Alors maintenant, moi, je vais vous parler de Monsieur Gataz, le MEDEF. Vous voyez, le monsieur. Oui, on en parle un petit peu ici. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, on n'avait pas bien trouvé des choses à dire. On le trouvait un petit peu en dessous, quand même.
En dessous de Pierre, en tout cas, de son père.
Il était... on le trouvait quand même pas très dynamique, pas très de combat, vous voyez. Alors là, il a donné donc une interview à Challenge. Et comme l'écrit Challenge, il est chaud bouillant. Ah bah ça y est, hein, il est rentré un petit peu au combat. Alors dans cette interview, il nous parle des entreprises, évidemment, du chômage, du marché du travail, de la fiscalité, des fonctionnaires et des dépenses publiques. Un poème. Alors déjà, dès le départ, Monsieur Gataz nous explique qu'il faut faire une révolution culturelle. Alors là, Challenge... Mais de quelle révolution parlez-vous ?
Parce que révolution culturelle, la liaison historique, c'est la Chine, c'est pas très positif.
Alors, je crois que Monsieur Gataz
pas du tout cette culture-là.
Croit vivre sous le, je sais pas, peut-être en Union soviétique, un truc dans le genre. Arrêtons de voir les entreprises comme des exploiteurs du peuple.
Ah.
Voilà. Alors il nous dit un peu plus loin. On a tout mis à l'envers. C'est l'entreprise qui crée de la richesse, pas la fonction publique, contrairement à ce que pensent certains ministres et parlementaires. Alors nous, on aimerait juste lui rappeler que la richesse, c'est les travailleurs et les travailleuses. Mais enfin, après, il a le droit d'avoir aussi des opinions de droite, hein, donc. Alors on lui demande aussi comment en finir avec le chômage. Alors il a plein d'idées, hein, Monsieur Gataz. Donc je préconise, nous explique-t-il, de créer des contrats de professionnalisation sur mesure, en permettant aux entreprises d'embaucher ces personnes à 80% du SMIC. L'entreprise, oui tu peux rire, l'entreprise les formerait pendant une durée de 18 à 24 mois, un investissement lourd. Et leur rémunération devrait être complétée par l'indemnité chômage ou le RSA pour atteindre le SMIC.
Ah, il a quand même besoin de l'État. Hein,
ah oui. Bah oui, l'assistana. Je vais dire, quand c'est les autres c'est mal, quand c'est le patronat c'est pas grave, c'est normal même. Enfin, il nous rappelle aussi un peu plus loin que... alors on lui demande s'il faut toucher aux indemnités chômage. Donc lui évidemment, il va nous rappeler qu'il y a des opportunistes, il y en a. Dit-il, et que donc c'est cela qu'il faut abattre, hein, globalement. Alors on lui demande aussi s'il faut introduire la dégressivité des allocations. Alors dans cette réponse, il nous explique, il n'y a pas assez de différence entre le salaire et l'indemnité chômage. La dégressivité est un moyen. Donc en fait, voilà, lui, il pense même pas qu'il faut augmenter les salaires, les embauches, arrêter la précarité des salariés. Non, non, non. Il pense qu'il faut vraiment agir sur les allocations chômage pour que ça aille mieux dans notre pays. Bon, il faut dire aussi que dans ce texte un peu plus loin, il nous parle de comédia dell'arte. C'est-à-dire que c'est son grand délire. Voilà, c'est-à-dire qu'il s'emballe à des moments dans l'interview et il va employer des grands mots comme ça pour dire que vraiment, ce gouvernement fait absolument n'importe quoi. Que
pourtant... Les mesures qu'il fait passer sur le plan économique, c'est tout issu du MEDEF, quand même.
Oui, mais c'est pas assez. Il pousse. Alors ensuite, on lui demande encore d'autres questions. On lui pose des questions sur ce qu'il pense un peu du marché du travail. Et donc, il a d'autres idées. Parce qu'il y avait déjà un premier contrat de travail. Et là, il propose un deuxième. Je propose un CDI sécurisé. Ça, c'est pour les TPE, les PME. Si le chiffre d'affaires ou le résultat d'exploitation stagne ou baisse, l'employeur doit pouvoir rompre le contrat.
Ah, c'est sécurisé.
Ah, IPRA. Bah, pas pour une fois.
Ah donc, oui, c'est pas sûr. Pour le salarié, pardon.
Non, pour le patron, là. Ah, ouais. Quand même, hein, ouais, voilà. Alors, c'est un peu une tendance aussi de vouloir, là, quand même, aller chercher les PME qui sont pas forcément avec le MEDEF, hein, qui sont plus avec la CGPME. Ouais. Donc, d'aller un petit peu sur, à la base, vous voyez, de parler au peuple. C'est un peu ça l'idée. Alors, il veut aussi réformer le code du travail. Il faut considérablement l'alléger, explique-t-il. Il fait 3500 pages, alors que le code suisse, par exemple, en totalise 80. Voilà, donc pour lui c'est une catastrophe. Ce code exprime tous les cas de figure les plus tordus, les plus exceptionnels. Il faut s'y attaquer avec une détermination churchillienne ou gaullienne, carrément, je vous ai dit, il s'en allait un petit peu. Alors, il a des grandes idées pour arriver à ce qu'il y ait une baisse des dépenses publiques. Donc lui, il estime qu'il faudrait affecter entre 5 et 10% des fonctionnaires à la simplification, à l'évaluation de l'utilité des lois. Là, Chaland, je lui dis, 500 000 fonctionnaires pour simplifier, c'est astronomique. Il faut mettre le paquet pour simplifier nos 85 codes et 400 000 normes.
Ouais, simplifier, il veut tout supprimer en fait. Hein, donc,
Bah, c'est la question d'après. Ouais. Voulez-vous supprimer le statut de fonctionnaire? Dans un premier temps, nous répond-il, nous proposons de le supprimer pour les hauts fonctionnaires, par exemple les énarques, en faisant la différence entre les fonctions régaliennes et les autres. Cela améliorerait la fluidité entre le public et le privé. Les énarques devraient aussi faire des stages obligatoires de 6 mois en entreprise. Les patrons sont des paranoïaques de la survie. Cet aiguillon n'existe pas au sommet de l'État. Alors évidemment, on
va pas défendre les énarques, hein, mais...
Non, mais c'est assez typique aussi de l'attaque sur les socialistes. Ils ont tous fait l'ENA, donc c'est aussi une pique assez directe finalement, même s'ils ne les citent pas. Alors moi, j'attendais le deuxième temps. Hein. Dans un premier temps, les hauts fonctionnaires. Le deuxième temps, bah, ça ne vient pas dans l'interview. Donc je ne sais pas ce qu'ils vous réservent, vous fonctionnaires, si vous m'écoutez, mais ça n'a pas l'air bon quand même, hein, je vous le dis. Voilà, donc une interview absolument magnifique où ils terminent en rappelant que, heureusement, qu'il y en a qui ont signé des accords, la CFDT, la CFTC, mais les trois autres, ils ne les citent pas, ne l'ont pas accepté. Voilà, il y a quand même de l'opposition. Il est bien obligé de le rappeler, même s'il essaye de, voilà, il essaye de s'en servir pour dire que quand même c'est difficile quand il y a tous ces syndicats. On n'arrive rien à négocier. Franchement, c'est chiant. Voilà, c'était donc Monsieur Gattaz, que vous pouvez lire dans le texte sur le site de Challenge. Le papier est daté du 22 avril. Alors, on va poursuivre avec Booking. .com, on vous avait parlé des attaques des hôteliers français qui jugeaient que Booking.com les escroquait un tout petit peu. C'était l'UMI, qui, le principal syndicat hôtelier, qui avait déposé plainte en juillet 2013 contre Booking.com, Expedia. En février, le groupe Accor s'est joint à la procédure, donc il y avait un petit peu du monde. Et finalement, ben, Booking.com, après 2 années de discussion, a bien dû faire une autre proposition. Il y avait eu une proposition déjà en novembre dernier, ça n'avait pas bien plu aux hôteliers. Là, il y a une nouvelle proposition, il y avait des discussions, des négociations en cours depuis mars. Booking.com, donc la multinationale, hein, je vous rappelle, de la réservation hôtelière en ligne, a accepté de renoncer à certaines clauses contractuelles.
Notamment l'exclusivité du prix le plus bas, là.
Ouais, alors, c'est ça. Alors, Booking n'empêchera plus les hôteliers...
de mettre plus bas ailleurs.
Ouais, de proposer sur d'autres plateformes de réservation directement sur place par téléphone ou par mail des tarifs inférieurs à ceux qui figurent sur son site. Donc c'était ça qui était interdit, hein. C'est-à-dire que les hôteliers ne contrôlaient pas du tout leurs tarifs.
Et puis du coup, il n'y a plus de mise en concurrence possible dans leur système, ouais. Puisque forcément Booking a l'exclusivité du prix le plus bas.
Il reste une petite quand même ligne toute petite en bas du contrat qui dit que sur leur propre site internet, les hôteliers ne peuvent pas avoir des prix inférieurs à Booking. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre sur leur
plateforme.
Site. Vous trouverez sur d'autres plateformes des tarifs tout à fait intéressant, mais n'ont pas le droit de vendre directement eux-mêmes des tarifs inférieurs à ceux pratiqués sur Booking. Ils seront aussi plus libres, les hôteliers, de choisir le nombre de chambres qu'ils vont confier à Booking, parce que jusqu'à présent, bah, Booking il prenait la majorité, c'est-à-dire qu'il décidait du nombre, du quota que l'hôtelier devait céder. Il ne pouvait pas non plus choisir le type de chambre, c'était très compliqué. Donc voilà, il y a un petit peu des avancées. Il devrait y avoir un bilan au 1er janvier 2007, c'est l'autorité de la concurrence qui suit cette affaire. Pour voir si Booking est bien sage. Alors c'est des modifications qui vont s'appliquer en France, en Italie et en Suède à partir du 1er juillet prochain et pour une durée minimum de 5 ans. C'est rigolo cette limite, voilà. Bon, il paraît que c'est un accord gagnant-gagnant pour le président de l'autorité de la concurrence. Les hôteliers disent que c'est un pas, mais que c'est encore pas tout à fait ça parce qu'il faut aussi se souvenir que Booking a des marges, enfin prend pas mal d'argent sur chaque chambre. Alors, il y a aussi d'autres qui vont vous dire que c'est bien, ça leur a donné une autre visibilité qu'ils n'avaient pas avant. Ça force les hôteliers à s'organiser, chose qu'ils n'avaient pas vraiment fait jusqu'à présent, en étant plus visibles sur Internet, en étant aussi un peu plus collectifs, puisque finalement, ils ont les syndicats professionnels. On se demande bien à quoi ça sert, à part à s'en prendre à leurs salariés. Donc voilà, c'est un peu la guerre des hôteliers et la guerre avec Booking. Bon, c'est une petite avancée. Petite avancée quand même. Alors, dernière petite info, pour parler de Cristaline, vous savez, c'est une marque d'eau en bouteille.
Hein, plastique.
plastique, bien évidemment. C'est une affaire qui est vieille, puisqu'en 2007, il y avait une campagne publicitaire avec des super slogans. Je ne bois pas l'eau que j'utilise, avec des chiottes. Il y avait un robinet où il y avait écrit nitrate, plomb, chlore. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je me souviens bien, non. Ça avait fait polémique à l'époque. Il y avait des slogans qui disaient « Qui prétend que l'eau du robinet a toujours bon goût ne doit pas en boire souvent ?» Tout ça, ça avait énervé la société Eau de Paris, qui avait donc porté plainte. Et jeudi dernier, le groupement d'intérêt économique Cristaline et la société Neptune, s'ils ont été relaxés du chef de pratique commerciale trompeuse, ils ont été déclarés coupables de publicité comparative illicite. Donc les deux, Cristaline et Neptune, vont devoir payer chacun 100 000 euros. Il y a aussi à côté de ça la société d'exploitation des sources Roxane, 20 000 euros. Le patron de Cristaline, monsieur Papillot, 20 000 euros. L'agence de publicité business, 20 000 euros. Ah non, bah ça a touché tout le monde dans l'affaire. Et le président de la fameuse agence, 5 000 euros. Il y aura 50 000 euros de dommages et intérêts à Eau de Paris et au syndicat des eaux d'Île-de-France. Et 1 euro symbolique à l'association de consommation UFC Que Choisir. Voilà, bah oui, il fallait pas jouer non plus
non.
Avec l'eau du robinet.
D'ailleurs, on rappelle que l'eau du robinet ne détruit pas l'environnement, alors que l'eau cristalline détruit l'environnement.
Voilà.
Puisqu'elle est en bouteille plastique. Allez, nous poursuivons avec un petit mot sur les OGM. Oui, chose négative. Alors, ce qui s'est passé, c'est Monsieur Juncker. Juncker, vous savez, c'est Jean-Claude de son prénom, un libéral ancien patron d'un État, un paradis fiscal, qui est aujourd'hui le président de la Commission européenne. Et mercredi, hier, ils ont proposé un projet de réglementation sur les OGM. Aussi bien sur, enfin pour les végétaux OGM, aussi bien ce qui concerne la bouffe pour les animaux que pour les êtres humains. Alors, il y avait pas mal d'opposition à ce projet et c'est quand même passé. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans et en quoi c'est négatif ? Alors, ce qui va changer, c'est qu'aujourd'hui, c'est Bruxelles, c'est-à-dire l'entité européenne, qui décide d'autoriser ou pas un OGM. Là, dans la proposition qu'a fait Juncker, qu'il a fait passer en douce, hein, c'est un truc un peu en force comme ça, par derrière. Bruxelles, donc la Commission européenne et l'Europe, va autoriser les cultures OGM. Et ensuite, ils nous disent, les États vont pouvoir, eux, les autoriser sur leur territoire ou les bloquer. Il y a toujours la possibilité de les bloquer. Jusqu'à maintenant, c'était plutôt bloqué au niveau européen. Là, ils vont généraliser l'autorisation au niveau européen et laisser les États faire ce qu'ils veulent chez eux. Bon, c'est bien, c'est pas bien. Grosso modo, c'est un recul quand même sur la lutte anti-OGM. D'abord parce que c'est passé en force, qu'il a pas écouté les opposants. Le principe d'unanimité en Europe sur les cultures OGM est passé à l'as. Voilà. Mais ça aurait pu être bien pire, parce qu'il aurait pu laisser l'Europe décider pour tout le monde, sans possibilité d'interdire sur son sol la culture de certains OGM. D'ailleurs, c'est là où on voit que c'est pas si négatif que ça, ça aurait pu être bien pire, c'est que ça a énervé les États-Unis d'Amérique à travers Michael Froman, qui s'est exprimé, qui est le représentant américain du commerce, qui a dit qu'il comprenait pas pourquoi Juncker avait fait ça, alors que ils sont en train de négocier ce fameux traité de coopération économique, le TAFTA, il a plein de noms là, plein d'acronymes, et où le but c'est de créer des emplois, d'ouvrir des opportunités pour la croissance, hein, je le cite, tout ça est c'est dans le contenu du traité de libre-échange transatlantique, et Juncker il fait l'inverse là. Alors ça rappelle quand même, pour ceux qui n'avaient pas encore percuté, celles et ceux qui n'avaient pas encore percuté, que dans le traité transatlantique, l'objectif c'est de faire sauter tout ce qui est blocage européen sur les OGM, sur les produits chimiques, sur tout ce qui détruit la planète, qui est pourri et qui veulent nous vendre. Hein. Donc finalement, ce mec Michael Froman, il nous redonne des arguments pour lutter contre ce traité, puisque lui, avec ce traité, il voulait que les OGM envahissent l'Europe. Voilà, ça, en gros, c'est ce qu'il dit, c'est pour ça qu'il n'est pas content. Alors, même si Juncker a fait passer son truc en force, comme ça, embête encore les libéraux américains qui négocient ce traité, c'est finalement pas si négatif que ça. Et puis, on va terminer par la partie nucléaire et radioactive de cette émission. Avec, alors, c'est pareil, dans la série « Je fais passer des trucs en douce », nous avons le Sénat français, qui a énervé beaucoup les antinucléaires, c'est-à-dire essentiellement le réseau Sortir du Nucléaire, France Nature Environnement, les Amis de la Terre et la coordination Burstop. Burstop, ça regroupe 5 assos qui sont vers Bure et qui luttent contre ce qu'il va y avoir à Bure, c'est-à-dire le projet d'enfouissement de déchets nucléaires qui s'appelle CIGEO. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont été énervés? Parce qu'un amendement est repassé. Il y avait déjà une tentative d'amendement en première lecture à l'Assemblée, qui avait été, suite aux pressions des antinucléaires, qui avait été enlevé, qui n'avait jamais été proposé au vote. Là, l'amendement en question, qui a été déposé par le sénateur UMP de la Creuse, de la Meuse plutôt, Gérard Longuet, tristement célèbre Longuet, je crois qu'il était dans les groupes d'extrême droite quand il était plus jeune. Donc lui, il a donc son amendement, il fixe à 2017 le dépôt de la demande d'autorisation de création de CIGEO. Bon, d'accord. Ça valide la proposition de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs de débuter ce projet par une phase industrielle pilote, qui s'est prévue vers 2025. Et surtout, ça définit la notion de réversibilité du stockage de déchets nucléaires en couche géologique profonde. C'est comme ça que ça s'appelle. Bon, voilà, ça c'est les termes techniques. Mais en quoi ça a énervé? Ben, ça a énervé, c'est que normalement, ça ne devait pas passer là. Là, on est dans le cadre de la loi Macron. Vous savez, le truc qui régit l'économie. Et on en profite pour faire passer des trucs pro-nucléaires dedans. Parce qu'il devait y avoir un débat à l'Assemblée sur un vrai débat sur le stockage des déchets nucléaires. Et là, ces députés, enfin Gérard Longuet, il essaye de faire passer en douce dans une loi qui n'a rien à voir avec l'énergie nucléaire, des choses liées à l'énergie nucléaire. C'est une pratique assez connue que font les élus, hein, aussi bien de l'Assemblée nationale que les sénateurs, de faire passer des choses dans des lois qui n'ont rien à voir, comme ça, ça passe discrètement. Donc là, voilà. Alors, est-ce que ça va être voté? Est-ce que, eh ben, ça va dépendre de ce qui va se passer à la deuxième lecture de la loi Macron. Parce que comme c'est intégré maintenant à la proposition du Sénat, faut voir si le gouvernement va utiliser le 49.3 ou s'il y a à nouveau des discussions. Dans ces cas-là, ça sera enlevé. Donc on a la réponse dans quelques semaines. En tout cas, c'est un beau coup par derrière et antidémocratique, hein, de ses amis, de Gérard Longuet, des amis nucléocrates, nucléophiles de l'UMP, mais j'imagine qu'il n'y a pas que l'UMP qui est concerné. Et alors, toujours dans le nucléaire, j'ai découvert cette semaine qu'en France, il y avait une spécialiste qui n'était pas du tout connue, très méconnue, sur les aciers spéciaux. Une grande scientifique qui s'appelle Ségolène Royal. Ah, parce que, alors je vous rappelle un petit peu l'histoire, le président de l'autorité de sûreté nucléaire qui a annoncé que l'acier de la cuve de l'EPR en construction à Flamanville comportait, je cite, une anomalie sérieuse, voire très sérieuse. Hein. Donc anomalie qui nécessite des revérifications et il y a une forte probabilité quand même que la cuve ne soit pas conforme et qu'elle résiste pas et qu'elle soit fragile par rapport à ce qui est prévu comme pression, comme contrainte dans cette centrale nucléaire de l'EPR de Flamanville. Voilà, il y a eu plein d'articles dessus, une catastrophe industrielle si jamais c'est confirmé, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Sauf que la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, qui milite contre l'écologie, on le rappelle, elle a dit quoi en tant qu'experte, hein, scientifique experte des aciers spéciaux, elle a dit, bon voilà, la clarification est faite, on va pouvoir redémarrer les travaux bientôt. Mais quelle clarification? Elle a estimé que c'était bon, voilà. On notera quand même qu'elle se permet, alors on sait qu'elle est là pour détruire l'écologie, hein, on en a des preuves, qu'elle est pro-nucléaire. C'est elle qui a enterré le fameux rapport de l'ADEME qui démontrait que d'ici 2050, on pourrait avoir une électricité 100% renouvelable. C'est elle qui a fait pression pour que ça sorte pas et que c'était balancé par des gens de l'ADEME, hein, mais c'est elle qui a fait pression. Elle milite contre l'écologie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a été placée à ce ministère de l'écologie. Ils vont pas mettre des écolos au ministère de l'écologie, sinon ils seraient bien embêtés. Hein. Donc voilà, en tout cas, on a appris qu'on avait une très grande scientifique des aciers spéciaux et qu'elle est quand même bien meilleure que tous les spécialistes puisque elle l'a fait sans se déplacer, sans aller voir la cuve, hein, et sans analyser la cuve. Hein. Moi, je dis bravo. Hein. Moi, je proposerais qu'elle soit prix Nobel de physique. Bon, enfin, bon, ça c'est que moi, hein, qui dis ça. Alors, toujours dans le nucléaire, le Nigeria. Alors, le Nigeria n'est pas connu pour avoir ni de centrale ni d'uranium. Hein. C'est le Niger, hein, qui a de l'uranium, ce qui n'est pas pareil. Donc là, il y a un projet, quand même, au Nigeria, d'avoir une centrale nucléaire. Il y a le Syndicat National des Employés du Secteur de l'Électricité, qui s'appelle le NUEE du Nigeria, qui a donné son avis et qui a donc mis en garde le gouvernement contre la construction d'une centrale. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment que les risques d'une centrale, notamment en cas d'accident, ne seront jamais assumés ni couverts par l'État nigérien. Parce que effectivement, ils sont pas capables. Quand on voit que le Japon, qui est un État industriellement très évolué, est incapable de gérer une catastrophe nucléaire chez lui, on se dit qu'effectivement, ils sont assez réalistes, les employés du secteur de l'électricité, pour dire que le Nigeria ne sera pas capable de gérer ça. Donc, ils ont donné leur avis à la Commission de l'énergie atomique nigériane contre cette construction. On sait qu'il y a des négociations avec Rosatom, hein, c'est la compagnie russe qui vend des centrales nucléaires, et que eux ils disent on a des problèmes d'électricité, mais parce qu'on a des problèmes avec des vieilles centrales électriques toutes pourries, qu'il faudrait peut-être avoir des centrales électriques modernes mais pas nucléaires. Voilà ce qu'ils disent, à voir s'ils vont être écoutés. Et puis la dernière info du jour, c'est EDF. Ah, EDF, quelle belle entreprise qu'EDF. Hein, cette entreprise qui a perdu son monopole mais qui essaye de le conserver. Et j'ai une petite histoire qui vous raconte tout ça. Alors au départ, c'est encore un petit truc en douce fait au Sénat par cette fois des sénateurs socialistes. C'est François Brotte et Erika Barex, qui ont déposé un petit amendement, les petits amendements, pour interdire que l'île de Sein, qui est dans le Finistère, puisse s'autofournir en électricité. Alors vous savez qu'aujourd'hui, dans le système actuel, vous pouvez, comme Radio Canu, choisir de l'électricité, acheter de l'électricité à d'autres gens que EDF. Ils ont perdu officiellement le monopole de diffusion, enfin de fabrication de l'électricité. Mais pas de partout. Et en fait, dans certaines zones comme l'île de Sein, qui sont des zones qu'on appelle non connectées, parce qu'effectivement, comme c'est une île, elle n'est pas connectée au réseau. Là, EDF a le monopole de fourniture. Et eux, que fait EDF ? Eh bien, EDF installe des groupes électrogènes au pétrole qui polluent, qui font du bruit, et vend cette électricité aux habitants. Les habitants de l'île de Sein, et c'est en fait, on a les explications de Patrick Soltier, qui est porteur du projet. Eux, ils ont un projet de dire, on est une île, on peut avoir du solaire, de l'éolien, il y a beaucoup de vent, et on peut être autonome en électricité. Et ils ont déposé un projet qui avait toutes les chances d'aboutir, parce que le projet est techniquement ficelé, que c'est bien mieux que la pollution engendrée par ce qu'apporte EDF avec ses groupes électrogènes. Et tout allait bien dans le meilleur des mondes possible. Sauf qu'il y a de l'opposition chez EDF qui ne veut pas perdre son monopole de distribution. Vous savez que EDF l'a gardé avec l'entreprise ERDF, qui est une filiale d'EDF, qui va d'ailleurs, je pense, bientôt être réintégrée à nouveau dans EDF. Ils veulent garder le monopole de distribution. Pourtant, symboliquement, ça ne concerne pas grand monde. Il y a 200 habitants dans l'île, quoi. Mais symboliquement, ils ne veulent pas lâcher ce monopole. Ils s'y accrochent. Et puis, ils gagnent plein d'argent. Parce que ouvrir ça, on rappelle que l'électricité, il y a des taxes. Il y a la contribution au service public de l'électricité qu'EDF récupère. Et on fait un peu n'importe quoi. Il y a plein de choses comme ça qui expliquent le comportement d'EDF qui empêche. Alors, il y a l'île de Sein qui est portée par Patrick Soltier, qui était très énervé parce que l'amendement supprime tout leur projet, hein, qui est un projet incroyablement intelligent d'autonomisation de l'île où il n'y aurait plus de pollution engendrée par la production d'électricité. Deux élus PS et EDF, eux, veulent que l'électricité soit toujours produite par EDF et qu'elle soit toujours produite de manière polluante, parce qu'EDF ne va pas installer non plus des éoliennes et des panneaux solaires. Hein. Donc voilà. Alors, il y en a d'autres, des projets comme ça. Il y a Saint-Pierre-et-Miquelon, ils ont eu la même embrouille aussi. Donc là, l'amendement qui a été déposé, un truc en loose day, hein, comme on dit, c'est-à-dire que les députés l'ont déposé la veille de l'étude au Sénat, donc personne n'était au courant. Ça a été adopté sans débat. Enfin voilà, c'est un déni de démocratie, et c'est tout ça pour que EDF garde un espèce de monopole. Ce qui est bizarre, c'est que EDF a déjà perdu pas mal de clients, et il y a une ville, par exemple Grenoble, où ils ont GEG à Grenoble. C'est la Générale d'électricité de gaz, dans le gaz et d'électricité de Grenoble, qui est une entreprise énorme, hein, qui produit de l'électricité et qui vend du gaz, et qui a 110 000 abonnés dans la région de Grenoble. Et là, ils peuvent rien faire parce que la loi les laisse faire. Et là, les 200 ou 300 abonnés de Saint, non, ben c'est symbolique. Voilà. Donc EDF reste une entreprise qui veut produire l'électricité en polluant et qui s'oppose aux projets environnementaux quand ils sont pas dans son sein propre. Voilà. C'est le triste échec pour l'instant de ce projet des habitants de l'île de Saint dans le Finistère, écrasé par la multinationale nucléophile EDF. Il nous reste 3 minutes avant de passer la main. Nous allons faire un petit agendax. Est-ce que tu as des choses dans l'agenda ? Non. Delphine, c'est tu. Là. Un petit débat à la Griffe. Enfin, un débat tout court à la Griffe. Donc, c'est la librairie quai rue Sébastien Griffe, 5 très exactement dans le 7e, proche du métro Saxe-Gambetta. Et c'est ce samedi, on sera le 25 à 15h, il y a un débat qui s'appelle Révolution bourgeoise et lutte des classes. Donc c'est autour d'un livre, hein, comme d'habitude, c'est une librairie. Donc c'est Sandra, l'auteur du livre, qui viendra parler de sa brochure sur la révolution bourgeoise et la lutte des classes en France entre 1789 et 1799. Voir comment tout s'est mêlé et tout s'est construit, hein, parce qu'on sait que c'est une révolution bourgeoise, mais comment ça s'est fait, voilà. Ça risque d'être très intéressant, donc c'est à la Griffe, samedi à 15h. Et puis toujours samedi, ça sera c'est lundi plutôt, ça sera le soir, c'est au fond de la rue Serrano, ça s'appelle Cul-de-sac, dans le 3e, le CSAO, la Raga, ils font des projections le lundi soir, et là la projection c'est Xazard Drôme, les routes perdues, c'est autour d'un camp, c'est un documentaire sur un camp, un bidonville on va dire, de Rome, aux portes de Paris, et avec toutes, enfin là ils sont allés faire un documentaire sur, il y a un documentaire qui existe sur ce bidonville, on voit ces populations s'organiser, et puis il y a une analyse. Voilà tout ce qui se passe. Et j'imagine aussi le racisme qu'on peut entendre autour. Enfin voilà, un documentaire sur ce bidonville. C'est vrai que les Roms sont sortis un peu de l'actualité, et tant mieux pour eux. Le racisme n'a pas disparu, mais il est moins mis en avant aujourd'hui. Mais il a été remplacé par d'autres racismes. Malheureusement, le racisme ne recule pas. Voilà, et puis je vous rappelle que le 1er avril, c'est la fête des travailleurs que nous...
T'as un problème avec les dates aujourd'hui, je tiens...
Le 1er mai.
C'est pas grave.
Le 1er mai, c'est la fête des travailleurs, nous ne travaillerons pas. On souhaitera du courage à ceux qui travaillent quand même. Comme d'habitude, il y a une manifestation départ 10h30 dans le 7e. On vous donnera toutes les infos la semaine prochaine. Mais il y a aussi, comme d'habitude, un repas de quartier organisé par Radio Canu Place Satonnet. Même si on a eu des échos de la mairie du 1er ou d'autres qui laissent entendre qu'il n'y aurait pas de repas de quartier. En tout cas, non, il y a bien un repas de quartier normalement prévu Place Satonnet à partir de 12h30. Chacun amène à boire et à manger. On partage, vous pouvez amener une guitare, un ukulélé, tout ce que vous voulez aussi pour partager votre amour de la musique, du chant, non, pas la ukulélé, pas la batucada.
Si, le ukulélé, je suis pour, non, ouais. Mais c'est parce qu'après, c'est avec les batucada, je mets personnellement une petite limite, c'est qu'après, on a du mal à se parler, c'est tout. Moi, j'aime bien qu'on puisse quand même continuer aussi à se causer, mais après, parce qu'on sait aussi que quand vous faites de la batucada, vous êtes incapable de vous arrêter, on vous connaît, vous. Musicien de batucada, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Vous aimez et après ça dure. Mais on sait que des fois il y a des gens qui viennent chanter, qu'il y a des gens qui viennent un petit peu raconter des tas de choses. Bah voilà, c'est aussi un lieu de quartier, il y a un lieu ouvert.
Voilà, si vous avez des tracts ou des choses comme ça à poser, c'est l'occasion aussi ou jamais. Vous avez le droit aux petites tapes de presse, faites comme vous voulez. C'est un lieu libre, autogéré, cette place. Malgré les oppositions, les envies qu'on arrête, pour l'instant on n'arrêtera pas. Radio Canu continue de faire son repas de quartier le 1er mai, place Satonnet.
Et ben on va vous laisser. Pour ce jeudi, on reviendra même heure, même endroit, la semaine prochaine.
Puis demain, 19h pour le prochain Canu Info.
Voilà, on vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Ça nous fait toujours plaisir à nous d'être du côté du micro. On espère que vous êtes aussi contents de nous écouter. On vous fait bien des coucous et à très très bientôt.
Bye bye.